Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Et voilà notre beau générique.
Magnifique.
Donc, je vous propose aujourd'hui, on va voyager à l'ouest. Non, à l'est.
Plutôt à l'est.
Plutôt à l'est.
Extrême-Orient.
Et donc, on va partir en Inde. Voilà. Et on va donc vous parler d'un auteur qui s'appelle Bulbul Sharma. Alors, je ne sais pas si on dit Bulbul ou...
Bulbul, j'ai entendu sur le festival Étonnant Voyageur, Bulbul.
Bulbul, bon, voilà, très bien. Heureusement que tu es là pour corriger.
Je surveille.
Donc, alors, du coup, en musique de fond, vous avez mis un petit Ravi Shankar. Hein, voilà.
Ça ne fait pas de mal.
Voilà.
Petit coup de Ravi Shankar.
Le matin, hein, enfin le matin, le midi, comme ça.
Il a joué au théâtre d'Evreux il y a très longtemps.
Oui. Je l'ai vu.
Ah, bravo.
Donc, Bulbul Sharma, et elle est donc née le 14 octobre 1952. Donc, elle est peintre et écrivain indien, actuellement basée donc à New Delhi. Elle a passé son enfance dans la ville sidérurgique de Bidai, Madhya Pradesh. Alors, elle est diplômée en langue et littérature russe, voilà, de l'université Jawaharlal Nehru à New Delhi en 1972. Et par la suite, elle est allée à l'université de Moscou pour l'enseignement supérieur. Donc, voilà. C'est pas courant pour nous, voilà, de voir un auteur indien qui, en plus, a été faire ses études à...
Parcours atypique.
Voilà. Ah, peut-être qu'en Inde, c'est plus courant, mais pour chez nous, c'est très exotique, du coup. Alors, à son retour en Inde en 73, elle va poursuivre une carrière dans la peinture. Et elle a rejoint Gauri, un complexe d'artistes à New Delhi. Et ce n'est qu'en 85 qu'elle commence à écrire à plein temps. Donc elle a tenu plusieurs expositions de ses peintures en Inde, mais aussi à l'étranger. Et ses peintures se trouvent dans la collection de la National Gallery of Modern Art, Lalit Kala Academy, à Chandigarh Museum, à l'UNICEF NORAD, au National Institute of Health à Washington et au Nehru Centre à Londres. Donc quand même...
C'est une peintre reconnue. Hein. Je suis allé voir un peu ses peintures sur Internet. Ce sont des peintures très colorées, tu sais, dans les tons de Gauguin un peu.
Ah ouais,
donc
ouais.
Elle peint beaucoup de fleurs, des animaux, notamment elle a fait des livres sur les oiseaux, magnifiques. Mmh. Peint les oiseaux, des portraits de femmes avec des lignes un peu simples, un peu naïves, mais c'est très typé. Mmh. Belle peinture.
Ouais. Très bien, il faut que j'aille voir là.
Ouais.
Et donc, elle a commencé à écrire aussi des chroniques hebdomadaires dans le Statesman et a édité des livres pour enfants pour divers éditeurs. Et actuellement, elle travaille sur une collection de nouvelles pour les enfants néo-alphabétisés. Alors, ces histoires, elles ont été traduites en français, en italien, en allemand, même en finnois. Et donc, ses autres passions incluent l'observation des oiseaux, donc, qui se retrouve
dans ses peintures, tout à fait.
Et aussi l'enseignement de l'art aux enfants handicapés.
Art-thérapie aussi, peut-être un peu.
Alors, elle a déclaré hein, « Apprenez tout ce que vous pouvez, chaque fois que vous le pouvez, de la part de n'importe qui. Il y aura toujours un moment où vous serez reconnaissant. » Donc ça, c'est ce qu'elle a déclaré lors d'une intervention dans une école. Donc son style d'écriture est simple et basé sur ses observations. Il y a du folklore et de l'imagination, mais ça souligne souvent la beauté voilà, des choses ordinaires et ce qui rend ses livres vifs et pétillants. Donc à ce jour, elle a écrit trois recueils de nouvelles. Donc « Mes sacrées tantes » en 1992, « La femme parfaite » en 1994 et « La colère des aubergines » en 1997. Donc, je vous conseille hein, de les lire hein, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Quoi.
C'est plein d'humour. Ouais. Ça parle beaucoup de la condition des femmes en Inde. Voilà. Très intéressant. Et je crois que la colère des aubergines, ça a été son premier grand succès en France, traduit en France.
Oui, voilà.
C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître.
Qu'elle s'est fait connaître, oui. Alors d'ailleurs, je vais vous donner un petit résumé du livre La colère des aubergines, dont on va vous lire d'ailleurs deux nouvelles tout à l'heure. Voilà. Alors, qui meurt Dean ? La colère des aubergines, folie des champignons, festin pour un homme mort, quelques titres de ces récits donnent un avant-goût de leur saveur. Les histoires racontées, pleines d'odeurs de cuisine, puissamment évocatrices des rapports et des conflits entre les membres d'une maisonnée indienne, soulignent bien sûr le rôle déterminant qui joue la nourriture et celle qui la prépare. Alors, des femmes croquées sur le vif, ils livrent des instants de bonheur, des secrets de famille, d'amour, d'enfance, qui ont parfois la violence du désir ou l'amertume de la jalousie. Mais les véritables héroïnes de ces sont les recettes, qu'il s'agisse de confectionner un pickle de mangue, un gâteau de carottes ou un curry d'aubergine au yaourt, le lecteur goûtera, du palais et de la langue, l'alchimie des aromates indiens.
On en mangerait.
Voilà, hein? Ça va vous donner l'eau à la bouche. Donc on va commencer par une histoire qui s'appelle, une nouvelle, La folie des champignons. Donc qui est racontée lue par Philippe.
Folie de champignons. La pluie s'égouttait des branches du déodard, formant une flaque au pied de natte. Il s'enfonça sous l'épaisseur de l'arbre, mais l'averse l'y poursuivit, lui trempant la tête et le dos. « Avec ça, je vais attraper la fièvre et j'en mourrai. Comme ça, ils seront heureux. Ils vivront chez moi tous les deux, ils coucheront dans mon lit », pensa-t-il, en tirant une longue bouffée de son bidi. Un accès d'attendrissement sur son sort le submergea, et il se sentit soudain beaucoup mieux. Il regarda en l'air. Le ciel s'éclaircissait peu à peu. Il ne restait plus dans un coin que quelques nuages gris-blancs. Le rideau de pluie s'éloignait de l'autre côté de la montagne. Au sommet de la colline, un pâle soleil rose effleurait le faîte des arbres. Nat glissa précautionneusement le bidi à moitié fumé derrière son oreille et attaqua la pente du chemin. La pluie avait rendu les pierres glissantes comme du verre. Il lui fallait marcher lentement, à pas plus court que d'ordinaire. « J'arriverai à la maison en retard, sans rien dans mon sac, tout juste quelques prunes. » Lui, il a dû partir de l'autre côté de la forêt, et avec la chance qui le caractérise, il aura sûrement trouvé des champignons noirs, soupira Nat. Ils seront ensemble dans la cuisine. Chinta les fera frire dans l'huile de sésame, puis elle les mangera un par un, pendant qu'il la regardera faire. Nat sentait dans sa bouche la texture glissante et spongieuse des champignons frits. Il prit son bidi et le ralluma. Le goût du tabac se mélangeait à celui des champignons, tandis qu'il exhalait des nuages de fumée. Debout, suivant des yeux la traînée bleuâtre qui disparaissait parmi les branches. Il pouvait y deviner vaguement la forme du visage de Chinta, ses yeux, ses sourcils épais et son nez, rien de plus. Elle le suivait partout, mais toujours par fragments. Parfois, c'était son visage qui l'épiait contre les arbres. Parfois, ses bras tendus vers lui, parés des bracelets de verroterie qu'elle préférait, les verres. Un jour qu'il était parti labourer, il avait rencontré ses pieds, juste ses pieds, chaussée des sandales de plastique rouge qu'il lui avait achetées à la foire de Renuka. Il l'avait suivi un moment, flip, flap, dans la boue liquide, avant de disparaître. Nat se demandait pourquoi Chinta le tourmentait, morceau par morceau, de cette façon. Si elle avait été morte, il aurait compris, car alors son fantôme aurait pu flotter ça et là, en plusieurs parties. Mais Chinta était vivante, bien vivante. C'était même la personne la plus vivante de toutes celles qu'il connaissait. Elle chantait plus fort, marchait plus vite, parlait, riait et mangeait plus abondamment que n'importe quelle autre femme. Aux réunions de village, elle brillait comme un signe d'or céleste au milieu de moineaux grisâtres. Nat l'avait rencontrée au repas de funérailles de sa tante, dans son village de l'autre côté de la vallée. C'était une jeune fille de 16 ans, dodue et rutilante de santé comme une vache pleine. Ses hanches larges, fermes et ses seins promettaient une abondance de fils. Elle était en âge d'être mariée et pourtant, s'étonnait Nat, personne ne s'était encore proposé à ses parents. Avec ses sourcils rapprochés, elle portera la querelle partout où elle ira, lui dit un ancien du village en la voyant passer une assiette de ladou au pois chiche à la main. Nat la suivit des yeux jusqu'au fond de la cour et la vit effriter subrepticement un ladou dans sa bouche avant de déposer l'assiette par terre. En se retournant, elle croisa son regard étonné. Mais au lieu d'arborer l'air contrit d'une coupable prise en flagrant délit, elle lui offrit de loin, en gloussant de rire, un ladou caché jusqu'alors au creux de sa paume humide de sueur et de sucre. On les maria dès le premier jour favorable, car le père de Chinta redoutait que Nat ne changeât d'avis. Heureusement, son père et sa mère sont morts, et on peut faire taire ses oncles avec une bouteille ou deux de vin de riz. Mais j'ai peur qu'un parent quelconque n'intervienne pour faire tout annuler et nous laisser avec cette fille sur les bras toute notre vie. À son tour de la nourrir, avait dit la mère de Chinta, qui lui reprochait sa hâte incongrue. Nat emmena Chinta dans son village, à un jour de marche de là, par l'étroit sentier planté d'arbres qui longeait la pente jusqu'à l'autre côté de la colline. Tout au long du chemin, elle chanta d'une voix forte et éraillée, rit et bondit par-dessus les ruisseaux, se comportant comme une fillette insouciante au lieu de marcher tranquillement, à 5 pas au moins derrière lui, comme il sied à une nouvelle épousée. « Tu te perdrais si je te laissais marcher devant. Je connais le chemin mieux que toi, » disait-elle quand Nat essayait de la dépasser. Les femmes du village l'interpellèrent. « Tu t'es attrapé un coq ? Ce n'est pas trop tôt, et attention à ne pas le dévorer. » Chinta répondit par un rire et, se retournant vers elle, cracha les graines de mûres qu'elle n'avait cessé de manger depuis leur départ. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour boire de l'eau à une source, elle lui fourra une poignée de mûres dans la bouche et le jus qui s'en écoula vint tacher d'une traînée pourpre ses vêtements neufs de mariée. Il aurait dû se faire respecter dès ce jour-là, dès le premier, se montrer ferme ou la battre. Maintenant, tout était perdu. Il était l'esclave de ses moindres caprices. Esclaves, ils l'étaient tous deux, Nat et Mohan. Les gens du village riaient et se raillaient d'eux en les voyant s'arracher pour les porter les ballots d'herbe qu'elle venait de couper. Faire la course pour aller lui chercher de l'eau. Se battre pour labourer les champs ou pour lui faire des cadeaux. Nat lui avait donné toute la terre qu'il possédait, mais Mohan lui avait construit une nouvelle maison avec des piliers de bois gravés. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Mohan était rentré chez eux demander une bouteille d'huile pour sa lampe, mais Nat s'en souvenait comme si c'était la veille. « Tu es le neveu de Tante Kanta, de Rajar, non ?» avait-il demandé avant de lui donner non seulement l'huile qu'il demandait, mais une boîte d'allumettes neuve et un bidi. Comment aurait-il pu alors savoir qu'il introduisait un serpent chez lui? Pire qu'un serpent, d'ailleurs, parce que cet homme-là ne rampait pas vers la sortie après avoir mordu. Mari de Chinta lui aussi, Mohan vivait maintenant avec eux. Nat devait la partager avec lui, comme le font les épouses d'un chef de village polygame. Mais les femmes avaient l'habitude, on pouvait même dire qu'elles aimaient la compagnie de leurs semblables, alors que pour un homme, c'était une torture. Les sourcils rapprochés de Chinta avaient apporté la querelle, comme l'avait prévu le vieil homme. Ses seins l'avaient induit en erreur avec leurs fausses promesses. Elle ne lui avait toujours pas donné de fils. Peut-être était-ce Dieu dans sa sagesse qui en avait voulu ainsi, car comment aurait-il pu savoir de qui était l'enfant? Pourtant, il l'aimait plus que jamais. À vrai dire, il aimait tout en elle. Ses étranges exigences alimentaires, son caractère emporté, ses façons nonchalantes l'avaient rempli de joie, jusqu'à l'arrivée de cet homme qui l'avait divisé en deux. Nat n'adressait plus que rarement la parole à Mohan, mais au début, il s'était battu tous les soirs, chaque fois que Chinta s'apprêtait à se coucher. Comme des coqs de combat à la foire du village, ils tournaient l'un autour de l'autre, poings serrés, et un jour, Mohan lui avait égratigné le visage avec un peigne à poux. Mais depuis qu'elle avait saisi un tison au foyer de la cuisine pour les chasser au cours de l'une de leurs querelles, ils s'évitaient. Nat essayait chaque nuit de se rassurer. « Elle se lassera de lui. Ce n'est qu'un balourd, un débile. Ils ne se sont même pas mariés dans les règles. Il n'a rien payé à son père pour l'épouser. » En tant que premier époux, il avait le droit de partager le lit de Chinta, mais souvent, quand il se réveillait, il la trouvait dans la pièce de Mohan, un grenier au-dessus de la cuisine. Cette nuit encore, elle y serait, car Mohan avait sûrement rapporté les champignons noirs dont elle était si friande. Frondes de fougères fraîches, légumes hors saison, fruits rares de la plaine, champignons noirs, fleurs de rhododendron, mûres étaient quelques-unes des nourritures favorites de Chinta. Elle ne mangeait que ces denrées rares, tandis que les autres femmes du village se contentaient de lentilles et de 5 galettes épaisses avec un morceau de beurre blanc frais. On aurait dit une déesse de la forêt dont la colère allait retomber sur eux s'ils ne la pacifiaient pas avec des offrandes choisies. Si encore elle était enceinte, on lui pardonnerait toutes ses bêtises, avait dit un jour une vieille femme à Nat en le trouvant à la recherche de mûres dans la forêt. Mais elle est stérile comme un roc. Sinon, avec 2 hommes dans son lit tous les jours, elle aurait déjà produit un rejeton. Et elle s'était écriée « Donne-lui une bonne raclée au lieu de mûres, imbécile !» avant de se mettre à lui jeter des pierres. Nat avait lâché les mûres et dévalé la colline. Toute la semaine précédente, Mohan avait eu plus de chance que lui. Il avait trouvé dans la forêt une source cachée de champignons noirs et il en rapportait à Chinta chaque soir. Si seulement lui aussi pouvait découvrir quelque chose de rare, quelque chose à quoi elle n'avait encore jamais goûté et qui lui plairait tant qu'elle se précipiterait dans ses bras la nuit venue. Nat jeta son bidi et soupira. Il joignit les mains et leva son regard vers le ciel, comme s'il attendait des dieux une réponse immédiate. Un pivert à dos doré traversa l'espace avec un cri perçant et se posa sur un déodard, dont il se mit à frapper l'écorce à coups de bec. Soudain, comme le son se répercutait à travers la forêt, il y eut une bourrasque de plumes et Nat vit un faisan sortir en courant d'une touffe de fougères. D'un bond rapide, il le saisit. Puis, surpris par son adresse, il le regarda avec une sorte de crainte mêlée de respect. Il sentait le cœur de l'oiseau palpiter contre sa paume. Quand il le relâcha, le faisan décampa vers la vallée avec un petit gloussement. C'est alors que Nat vit la couvée sous les fougères. 7 œufs lisses, blancs ivoire, disposés en cercle sur un lit de brindilles et de cailloux. Soudain, le visage de Chinta surgit au-dessus du sien. Ses bras s'avancèrent vers lui jusqu'à le toucher. Ses doigts dansèrent sur ses joues. Nat avait le cœur battant lorsqu'il se pencha pour ramasser les œufs, tout en murmurant sa gratitude au dieu qui l'avait exaucé. Il se rappelait la dernière fois qu'il avait découvert des œufs de caille, plusieurs années auparavant. 2 seulement. Mais comme elle avait été contente, elle les lui avait pris des mains gentiment, en avait brisé un d'un petit coup contre la meule à épices et, renversant la tête, avait gobé tout cru le jaune. Puis, elle avait enrobé l'œuf intact de glaise humide et l'avait placé tout près des braises du fourneau. Il va cuire dans la cendre, et demain matin, j'y ajouterai des noix, du sucre de palme et de la gomme écrasée. « Il m'apportera un fils », lui avait-elle dit en le regardant. La lumière du foyer illuminait son visage, dansait sur son cou, sur ses joues, et Nat avait su qu'elle dormirait avec lui cette nuit-là. Les gouttes de pluie ruisselèrent des fougères sur ses mains quand il se baissa. Il ramassa les 7 œufs dans son bonnet et les plaça dans sa chemise. Il sentait leur chaleur contre sa poitrine et se rappela les pulsations du cœur du faisan contre sa paume. L'oiseau avait disparu, mais on l'entendait glousser faiblement dans le lointain. Nat sortit 4 œufs de son bonnet et les reposa dans le nid. Puis, les 3 autres, bien calés contre lui, il entama sa descente, cette fois par le chemin plus long que prenait le bétail, de peur de casser les œufs. Mohan peut bien arriver avant moi. Aujourd'hui, j'ai trouvé un trésor. Il n'aura pas pu rapporter mieux, se disait Nat en riant aux éclats. Les pantoufles de Chinta étaient devant la porte de la cuisine, mais la pièce était vide. Elle n'était pas partie au champ, puisque son châle était là, par terre, et la faucille aussi. Tandis qu'il la cherchait à travers la maison, Nat sentit une terreur froide lui inonder le cœur, noyant toute joie. Elle était partie avec Mohan. Il avait toujours su qu'elle le quitterait un jour. Il avait vécu dans cette peur chaque nuit, dès qu'il l'entendait le rejoindre au grenier. Nat regarda à l'étage avec une haine rageuse. Et la vie, couchée par terre. « Il est parti ! Il est parti !» hurlait Chinta en martelant le sol de ses mains, comme pour briser ses bracelets à la façon des veuves. « Je savais qu'il me quitterait un jour, mais si tôt. Qu'est-ce qu'il croit pouvoir trouver à Haripurdar ? Du roc et de la neige, c'est tout ce qu'il y a là-bas. Je veux mourir, » conclut-elle dans un murmure, tendant les bras vers Mohan à l'aveugle. Où était-ce vers lui ? Elle le regarda avec indifférence sortir les œufs de son bonnet, puis se tourna vers le mur en sanglotant à petits coups. Au soir, elle se calma un peu et mangea les œufs de faisan, non pas crus cette fois, mais bouillis dans de l'eau salée. De ce jour, elle absorba tout ce qu'il lui rapportait, sans joie ni gourmandise. Bientôt, elle se mit à avaler les mêmes galettes épaisses que les autres femmes, puis seulement la bouillie de riz qu'elle avait détestée, et Nat sut que la blessure ne se refermerait jamais. Dans la cabane, à présent très silencieuse, le grenier sombre avait été envahi par les araignées noires, comme si personne n'y avait jamais dormi. Nat regrettait Mohan. Il avait besoin de sa jalousie. Maintenant qu'il ne voyait plus que lui, les yeux de Chinta étaient ternes et boueux. Bientôt, elle se mit à ressembler aux femmes du village, et même, au fil des jours, à paraître plus insignifiante et plus vieille qu'elle, parce que contrairement aux autres, elle n'avait pas d'enfant. Comme elle passait tout son temps au champ, sa peau devint aussi rugueuse que l'écorce des vieux arbres. Nat ne pouvait plus la toucher. Elle dormait au grenier en compagnie des araignées. Parfois, quand la lune glissait ses rayons sous la porte, Nat pensait à Mohan. Haripurdar n'était pas loin, à 2 jours de marche seulement du village. Peut-être irait-il cet été, quand les sentiers de forêt seraient secs. En route, il ramasserait des champignons pour lui.
Donc voilà, une belle histoire.
Bah, une histoire d'amour, un peu triste. Hein, mais... L'amour de Nat, hein, quand même, prêt à aller rechercher l'amant de sa chérie.
Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour ?
Incroyable.
Donc voilà. Donc après, on va vous lire une autre histoire. Donc là, qui s'appelle « En sandwich ». Et donc là, c'est un jeune marié qui a bien du mal entre sa mère et sa femme, qui se font un peu la guerre dans la cuisine aussi. Hein. Ça se passe toujours autour de la cuisine. Donc là, bon, on est plusieurs à lire. Hein. Donc il y a Fabien, Sophie et moi qui intervient un tout petit peu aussi. Donc, je vous propose donc en sandwich.
Debout sur le seuil, il hésitait à entrer. Elle l'attendait, il le savait. Elle devait surveiller furtivement le portail, cou tendu, immobile comme le daim en arrêt qui hume l'air pour détecter le danger. Sa mère près de la porte, sa femme à quelques pas derrière. Dès qu'il entrerait, la lutte qui déchirait chaque journée de sa vie conjugale s'engagerait et la soirée serait ravagée. Vinode, baissant la tête comme pour se rapetisser et éviter de se faire remarquer, franchit le seuil. Sa mère quitta sa position stratégique près de l'entrée pour se propulser vers lui. Aujourd'hui, elle tenait à la main un verre de jus de fruits. À la vue du liquide rouge miroitant dans le verre givré comme un sang fraîchement recueilli, Vinode sentit monter en lui une nausée soudaine.
« C'est du jus de date, mon chéri. Je viens de le préparer. C'est un fortifiant. »
Elle lui mit le verre entre les mains avec un sourire de triomphe pour l'avoir intercepté la première ce soir-là. Nirmala, sa femme, était cachée derrière les rideaux. Ses vibrations de colère filtraient jusqu'à lui à travers l'imprimé fleuri du tissu. Au tintement de ses bracelets, Vinode comprit qu'elle tenait à la main une tasse de thé. Il ferma les yeux tandis que ses papilles gustatives se rétractaient à l'évocation du thé de Nirmala. Ni le garçon de bureau, ni le tenancier de l'échoppe de la rue ou du comptoir de la gare, ni même les cuisiniers d'une cantine d'hôpital n'étaient capables de donner au thé un goût aussi détestable. Parfois, Vinode s'émerveillait de son insistance à concocter un tel breuvage, à la fois amer et aqueux, tiède et généreusement étendu de lait tourné. Pourtant, il souriait chaque fois en l'avalant, jour après jour. Étiré largement les lèvres, l'aidait un peu à détendre les muscles de sa gorge qui se contractaient jusqu'à l'occlusion dès la première gorgée de thé, exécrable, inoubliable de Nirmala. Vinode termina le jus aigre de date jusqu'à la dernière goutte sous le regard inébranlable et vigilant de sa mère, puis s'avança pour en découdre avec le thé de son épouse. Son estomac se révoltait, son corps se figeait comme une mule sur le qui-vive. Pourtant Vinode, à la façon d'un automate, tendit la main vers la tasse en attente. Il se commanda de sourire, retint son souffle et avala d'un trait le liquide de couleur de cendre, sans quitter du regard le visage de Nirmala. « Comme elle est belle et combien je l'aime !» pensait-il, tandis que le thé entamait sa descente à travers sa gorge, traçant derrière lui un sillon de tanin amer qui persisterait jusqu'au dîner. Mais il ne voulait pas encore penser au dîner. Il lui restait quelques heures de paix avant qu'elle prenne position pour l'assaut suivant. Sa mère s'était retirée dans sa chambre dont elle avait laissé la porte ouverte, signifiant ainsi à Vinode qu'il devait venir lui tenir compagnie. Cela voulait dire aussi que Nirmala avait une fois de plus enfreint les règles, qu'elle avait outrepassé les limites qui lui étaient assignées et empiété sur le territoire de sa belle-mère.
« Tu sais que je ne cherche jamais à me mêler de vos affaires, mais à mon âge, je mérite quand même un peu de paix et de tranquillité. Je ne réclame jamais rien, tu le sais, c'est malin dur. » Ton père aussi le savait. Il répétait toujours à ses proches « Elle ne réclame jamais rien. » Mais cela ne veut pas dire que tout le monde doive me traiter comme une domestique, quand même, non ?
Chaque fois qu'elle se mettait en colère, Vinode voyait ses propres traits se substituer à ceux de sa mère. La peau de celle-ci perdait sa texture sèche et transparente pour luire d'un reflet sombre et marbré. Sa bouche, aux lignes d'ordinaire délicates et fines, devenait irrégulière et masculine. Elle n'a que 54 ans. Si elle était européenne, elle aurait pu se remarier, et même les veuves indiennes aujourd'hui. Vinode écarta cette hypothèse saugrenue d'un mouvement de tête.
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as mal aux oreilles ? Je le savais bien, après la glace qu'elle t'a fait manger. De l'eau et du colorant, c'est tout ce qu'elle y a mis. Je m'étonne que tu ne tousses pas encore.
Non, maman, je vais bien. Il réprima une brusque envie de tousser. Il ne bougeait pas, essayant d'avoir l'air attentif. Sa mère se mit à parler à voix basse en jetant un regard vers la porte à la fin de chaque phrase. Sachant que Nirmala était là à écouter, elle baissait et montait le ton à sa guise pour exciter la curiosité de sa bru, murmurait des bribes d'informations puis se plaignait à haute voix la seconde suivante.
Pourquoi diable acheter un litre de lait supplémentaire quand ses amis viennent la voir ? Sont-elles des mères qui allaitent pour avoir besoin de tant de lait dans leur café ?
Mais Vinode savait que les invités auraient été au désespoir sans ce supplément de lait parce que le café de Nirmala était encore plus exécrable que son thé. Il se rappelait avec tendresse comment il s'était étranglé à le boire quand il était allé la voir à l'époque des négociations de leur mariage. « C'est Nirmala qui a tout préparé aujourd'hui », avait annoncé fièrement sa mère. Les samosas rabougris, les goulab jamoun, des faits et le café mortel. Tout était de la fabrication de Nirmala. Vinode mangea ce qu'on lui offrait, comme s'il mourait d'inanition parce qu'il était tombé follement amoureux de Nirmala et que sa nourriture avait un goût de nectar pour ses papilles éperdues. Vinod jeta un coup d'œil furtif à sa montre et vit qu'il restait 5 minutes à sa mère pour finir sa tirade. Elle ne le prolongeait jamais au-delà de 6h30, heure à laquelle commençait son émission de télévision favorite. Elle se hâtait maintenant d'exprimer tout ce qu'elle avait prévu de dire, tant et si bien qu'elle termina 2 minutes avant l'heure. Un silence gêné s'installa, que sa mère rompit en les congédiant, disant qu'elle devait aller aux toilettes. Maintenant, c'était au tour de Nirmala, mais ses contre-accusations n'ennuyaient pas Vinod, parce qu'il pouvait lui caresser les bras et lui embrasser le bout des doigts pendant qu'elle parlait. Ce jour-là, pour une raison obscure, elle ne mettait pas la même fougue que les autres soirs dans ses attaques et se plaignait d'un ton indolent, comme pour satisfaire ce qu'on attendait d'elle. Ça ne va pas ?
Si, si, juste un peu fatiguée. Ta mère m'a frotté les cheveux à l'huile cet après-midi, mais elle n'arrêtait pas de me houspiller, à tel point que je n'ai pas pu faire la sieste. Je t'ai préparé une nouvelle recette de poulet, un plat italien. Je l'ai vue sur ZTV dans une émission de cuisine. Elle a été interrompue par une panne de courant au milieu, mais je savais ce que le cuisinier allait faire.
Vinod poussa un soupir. Heureusement, il restait 2 heures avant de passer à table. D'ici là, tant de choses pouvaient arriver. Un tremblement de terre avec un peu de chance. Ou bien on allait le convoquer d'urgence au bureau, à moins que des invités n'arrivent à l'improviste. Il insisterait alors pour qu'on fasse venir un dîner sur commande. Et si les cuisinières tombaient en panne de butane, mais la soirée passa comme l'éclair et l'heure du dîner arriva, comme elle le faisait avec une régularité infaillible à la fin de chaque journée.
Jhooti mo maya Satcha man ka Wo ko na jaha Prem ratan paya
avec Nirmala, Vinod était entraîné dans cette lutte dont son palais était l'enjeu et il en était là. Chaque jour, les deux femmes essayaient de nouvelles stratégies. Parfois, elles se battaient sur le terrain des curies. Chacune d'elles en produisait une version plus épicée, plus parfumée, plus forte, qui lui mettait la bouche en feu et lui donnait des cauchemars. L'une préparait-elle un plat d'agneau. Plantureux, nageant dans la graisse, l'autre répliquait par un curry de boulettes de viande, alourdi d'une sauce épaisse à la poudre d'amande. Quand sa femme plaçait devant lui un poulet au beurre qu'on aurait cru trempé dans la teinture orange, sa mère contre-attaquait avec des boulettes de viande noyées dans un lac de gui d'un jaune profond, aux brochettes tranchées fines, dures, comme une corde de jute. Répondaient aussitôt des brochettes passandas raides et calcinées comme autant de morceaux d'ébène. L'une et l'autre étaient piètres cuisinières, mais il fallait les complimenter à chaque bouchée qui lui obstruait le gosier. Vinod rêvait souvent de pouvoir diviser son corps en 2 moitiés verticales, pour en donner une à chaque femme. Il aurait tant voulu leur plaire à toutes les deux. Nirmala savait que sa belle-mère était meilleure cuisinière qu'elle. Elle avait commencé à nourrir Vinod bien avant qu'elle ne savait exactement ce qu'il aimait. Mais l'épouse se rattrapait en lisant des livres de recettes toute la journée. Elle prenait des notes abondantes dans un carnet qu'elle consultait chaque fois qu'elle faisait la cuisine. Elle le tenait dans une main, tout abîmé, qu'il était pour être tombé plus d'une fois dans les pots à épices tachés de sauce, un coin écorné, tout en s'activant de l'autre. Depuis qu'elle avait surpris un jour sa belle-mère feuilletant son précieux recueil, elle le gardait enfermé à clé dans son placard. Encore quelques mois de pratique et Vinod lui mangerait littéralement dans la main. Si seulement ses galettes pouvaient être aussi parfaitement rondes que celles de sa mère, au lieu de ces successions de flaques difformes qui lui valaient de perpétuelles humiliations. Sa belle-mère riait sous cape quand Nirmala posait les poulkas balafrés et informe sur l'assiette de Vinod.
Elle a beau avoir étudié dans une école de sœurs et parler couramment l'anglais, ce qu'elle prépare est bon à jeter. Il ne suffit pas d'avoir un teint pâle et un joli sourire pour plaire à un homme. Il faut aussi savoir le nourrir.
Elle n'avait pas besoin d'un livre pour savoir comment cuisiner. Sa mère lui avait tout appris quand elle était enfant. Et bien qu'ils aient eu de nombreux domestiques, elle s'était toujours occupée des repas de son défunt mari. Même le jour de sa mort, il avait mangé une pleine assiette de pommes de terre au fenugrec, 4 galettes de blé fourrées au fromage, un grand bol de kheer et 2 gâteaux ronds qu'elle avait préparés avec du kurgi de vaches venues de leur village. Vinod aussi aimait sa cuisine. Enfant, il se précipitait vers elle à l'heure des repas pour lui demander à manger le premier. Elle séparait en 2 un paratha tout chaud, en effritait une moitié pour la mélanger à de la sauce, rajoutait un bon morceau de beurre blanc et confectionnait des petites boulettes de cette mixture. Puis, elle les lui introduisait adroitement, l'une après l'autre, dans la bouche qu'il gardait grande ouverte comme un oisillon perpétuellement affamé. Le voir à présent avaler la mauvaise cuisine de sa femme lui brisait le cœur. Même le petit domestique n'en aurait pas voulu. Elle avait envie de lui arracher l'assiette des mains et d'en jeter le contenu à la poubelle.
Elle pose toujours le plat qu'elle a fait juste devant toi. C'est pour ça que tu ne manges pas les miens. Elle ferme la porte de la cuisine à clé quand elle prépare le repas pour que je ne puisse pas voir quelles épices elle met dans le curry. Il ne faudra pas m'accuser si un jour elle brûle vive dans la cuisine sans que je puisse lui porter secours. Ce sera bien fait pour elle. Elle n'aura qu'à emporter ses recettes secrètes au paradis.
Bougonnait Nirmala dans leur chambre, après l'avoir de nouveau étouffé avec une tentative désastreuse sur laquelle il n'avait pas tari d'éloges. Au cours de la semaine écoulée, il avait remarqué que leurs escarmouches, d'abord limitées au curry, s'étaient étendues au pudding. Là, Nirmala commençait à marquer des points sur sa belle-mère. Ses gâteaux étaient étonnamment bons, tandis que les compétences pâtissières de sa mère se limitaient au kheer et au halva. Mais ces jours derniers, sa mère avait changé de tactique et soufflé la vedette à Nirmala. Elle attendait son fils chaque soir avec un verre de jus d'une nouvelle variété à la main, jus de fruits aigres, lait d'amande à l'odeur étrange, décoction grumeleuse de cumin et de tamarin accueillait à présent son retour à la maison. Son estomac désemparé, terrain d'une lutte sans merci entre le kheer et le gâteau à la carotte et sur lequel pesaient toute la nuit des curry lourds comme les démons de pierre acceptaient sans broncher les breuvages mortels rouges, verts et bruns. Se faisait si insistant que sa peau réagissait par une éruption d'urticaire à petits boutons roses. Mais il ne tomba jamais sérieusement malade. Chaque soir, Vinod mangeait ce que sa mère avait noyé dans le ghee et les offrandes calcinées de son épouse. Son système digestif supportait tout avec bravoure et stoïcisme. Parfois, il aurait aimé contracter une maladie qui lui imposa un régime draconien et obligea les femmes à déclarer un cessez-le-feu. Peut-être alors serait-elle devenue amie, parce qu'au fond, quand elle n'entrait pas en compétition pour le nourrir, elle s'aimait bien. Tous les gens qu'il connaissait souffraient d'ulcères, de tensions artérielles ou frôlaient l'obésité. Mais à l'exception de borborygmes, occasionnels sans gravité et de quelques rots sonores, son estomac ne protestait jamais. Son taux de cholestérol restait normal, de même que sa tension, et il était mince comme un roseau. Dès qu'il s'asseyait à table, sa mère bondissait pour lui servir une louche de pommes de terre au sésame dans son assiette à côté du riz à la tomate. Nirmala contre-attaquait en recouvrant le tout d'une portion généreuse de poulet à la florentine. « Vous m'en donnez trop !» disait-il, sans les regarder ni l'une ni l'autre. Refus, assentiment ou compliment devaient tous leur être prodigués en part rigoureusement égale. Vinod, qui avait poussé cet art à la perfection, regardait droit devant lui quand il leur parlait. Le portrait de son père accrochée au-dessus de la table. Ce soir-là, Nirmala paraissait un peu distraite, comme si elle ne participait à la mêlée que par habitude. En voyant les gestes ralentis et quelque peu léthargiques qu'elle avait pour renchérir sur les portions que lui servait sa mère, il devinait que le cœur n'y était pas. « Ça ne va pas ? » demanda-t-il de nouveau. Sa mère, étonnée, elle aussi cessa d'amonceler du riz sur l'assiette de Vinod pour la regarder.
« Je vais avoir un bébé. »
Vinod se précipita vers elle pour lui prendre la main. Sa mère se mit à pleurer, mais leur souriait de bonheur à travers de grosses larmes qu'elle essuyait avec son sari.
« Krishna, Seigneur, tu as entendu mes prières. Bénis cette femme, Seigneur, protège-la du mauvais œil. »
Ses mains firent rapidement le tour de la tête de Nirmala et elle fit craquer les jointures de ses doigts contre ses tempes. Nirmala répondit à son geste en s'inclinant pour lui toucher les pieds.
« Non, non, reste tranquille. Il faut que tu prennes soin de toi maintenant. Le bébé doit naître bien portant. Je vais te faire chauffer du panjiri sur une bougie. Ça te fera monter le lait. Tu dois être gros de 3 mois. »
dit-elle en posant sur Nirmala le regard expert d'un fermier évaluant sa vache laitière. Nirmala répondit immédiatement, déjà beaucoup plus alerte et gaie.
« On pourra toujours lui donner du lait en poudre si je n'ai pas assez de lait. Et puis après, du Pharex. »«
Quoi ? Nourrir mon petit-fils de boîte de conserve ? Pas question. Je lui trouverai du lait de vache, du beurre blanc frais, du yaourt. »«
Aujourd'hui, tout le monde donne des œufs et des céréales au bébé quand il a 3 mois. »«
C'est pour ça que leurs dents tombent quand ils arrivent à 30 ans. Regarde Vinod, comme il a de bonnes dents et les os sains. »
Les deux femmes se tournèrent vers lui. Mais elle semblait voir, au-delà de sa personne, un enfant qui n'était pas encore né. Un enfant pour lequel elles entreraient en compétition nourricière avec une joie plus intense. Vinod sentit leur regard indifférent le baigner comme un souffle d'air frais et pur. Et il sut qu'il était libre. La paix s'installerait chez lui pendant les 6 mois qui allaient suivre. Puis la guerre ferait de nouveau rage, mais cette fois, il n'en saurait pas l'enjeu. Vinod souhaita de tout cœur un fils bien portant et fort. Une fille si précieuse et chérie soit-elle, n'aurait pas le même pouvoir de diversion.
Donc voilà.
Bah, c'est ce qu'on
pas
appelle...
Pas facile hein, d'être un homme en Inde.
On comprend bien le titre, hein, le sandwich. Il y a plusieurs niveaux de compréhension du terme sandwich. Hein.
Voilà, il est coincé entre sa femme et sa mère. Et,
quelle concurrence.
Voilà, et donc là, il va grossir à vue d'œil, hein, en avalant tout ça. Alors, après avoir parlé autant de nourriture, on va vous proposer un petit échantillonnage de recettes qui vous donneront peut-être envie de les essayer, hein, pourquoi pas. Alors, on va commencer par un glaçage au fromage blanc.
Glaçage au fromage blanc. 25 g de sucre glace, 50 g de beurre fondu, une demi-cuillerée à café d'essence de vanille et 200 g de fromage blanc. Battez le fromage blanc avec les autres ingrédients et recouvrez le gâteau de ce mélange. Si vous préférez, vous pouvez l'utiliser à d'autres fins. Ajoutez-y des morceaux de mangue, des tranches d'orange ou tout autre fruit de votre choix et servez froid en dessert.
Gâteau de carottes. 400 g de farine, 350 g de sucre de canne blanc, une demi-tasse d'huile d'arachide, 4 œufs, 2 cuillères à café de poudre de cannelle, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café de sel, 3 demi-tasses de carottes râpées, 200 g de noix broyées, 100 g de raisins secs et ou de dattes. Déposez tous les ingrédients ensemble dans un grand bol et mélangez avec une spatule en bois bien solide. La pâte obtenue est collante et difficile à remuer. Mais ne vous y arrêtez pas. Faites cuire au four chaud dans un grand moule huilé et fariné entre 45 et 60 minutes. Voir se transformer cette mélasse en gâteau appétissant, fleurant bon la cannelle et d'un joli ton orangé est toujours une surprise. Vous pouvez glacer le dessus en suivant la recette ci-dessous. Si vous savez résister, mettez-le au réfrigérateur et attendez 2 jours avant de le manger pour permettre aux saveurs de s'exalter.
Graines de lotus et cottage cheese. 250 g de graines de lotus, 250 g de tomates, 250 g de cottage cheese, une demi-cuillère à café de poudre de coriandre, une demi-cuillère à café de poudre de cumin, une demi-cuillère à café de poudre de curcuma, sel, une demi-tasse de yaourt nature, une cuillère à café d'huile. Faites chauffer l'huile dans un wok jusqu'à ce qu'elle fume. Faites frire la coriandre, le cumin et le curcuma. Ajoutez les tomates coupées et remuez jusqu'à ce que l'huile se sépare et que le mélange prenne une couleur rouge foncé. Ajoutez des cubes de panier frais et la demi-tasse de yaourt diluée dans juste assez d'eau pour couvrir. Ajoutez le sel et laissez mijoter pendant quelques minutes avant de verser les graines de lotus. Servez dès que celles-ci sont croustillantes et gonflées.
Boisson chaude au gingembre et au miel. Prenez 5 lamelles fines de gingembre frais, 5 feuilles de basilic, variété Tulasi, 5 clous de girofle, 5 grains de poivre et une petite gousse de cardamome. Faites bouillir les épices et le gingembre dans 2 tasses d'eau. Laissez réduire de moitié à feu doux. Le liquide a alors pris une couleur brun clair. Ajoutez une cuillerée de miel et sirotez lentement en inhalant l'arôme délicieux. Cette décoction est ma panacée. J'y ai recours contre la toux et le rhume, aussi bien que contre le chagrin et les crampes de faim.
Riz à la tomate et à l'ail vert. Une tasse et demie de riz basmati à grains longs, 3 grosses tomates, 2 oignons moyens, une cuillère à café d'ail frais écrasé, 2 cuillères à café de tige d'ail hachée fin, 5 cuillères à café d'huile, une cuillère à café de piment en poudre, une cuillère à café de coriandre en poudre, une cuillère à café de graines de moutarde, 2 cuillères à café de lentilles brunes, 2 cuillères à café de cacahuètes grillées et quelques feuilles de carie, plus un peu de sel. Faites blanchir les tomates et réduisez-les en purée. Ajoutez de l'eau pour arriver à 4 tasses de liquide. Versez celui-ci dans un récipient et ajoutez le riz et le sel. Faites cuire à feu doux. Pendant ce temps, faites chauffer l'huile dans une poêle et mettez-y à frire les graines de moutarde et les lentilles jusqu'à ce que les graines de moutarde commencent à éclater. Ajoutez les cacahuètes, les feuilles de carie, l'ail écrasé, les tiges d'ail et les oignons coupés en lamelles. Faites dorer. Quand l'oignon a bruni, ajoutez la poudre de coriandre et de piment. Faites frire pendant une minute, puis ajoutez ce mélange au riz. Attention aux projections de gouttes brûlantes au moment où le mélange touche le riz. Couvrez et laissez cuire jusqu'à ce que le riz devienne moelleux.
Jus de date. False Caras. Une livre de falsa fraîche, sucre à volonté. Lavez les fruits à l'eau courante, saupoudrez-les de 3 ou 4 cuillères de sucre, moins si les falsas sont très sucrés. Frottez pour faire pénétrer le sucre dans les fruits. Mettez dans une casserole avec 2 verres d'eau. Passez à travers une mousseline en pressant doucement pour exprimer tout le jus. Remettez la pulpe dans la casserole, rajoutez 2 verres d'eau et passez de nouveau. Vous obtiendrez un jus couleur de vin clair, piquant, délicat et très rafraîchissant, délicieux.
Friture de champignons et de lentilles germées. Une tasse de champignons, une tasse d'oignons frais avec leurs tiges hachées, 2 tasses de lentilles germées, 2 tomates, une cuillère à café d'huile, une demi-cuillère à café de graines de cumin. Faites chauffer l'huile et mettez à frire le cumin. Ajoutez les oignons hachés sans laisser brunir. Puis ajoutez les lentilles germées, les tomates et les champignons. Faites frire légèrement et servez chaud. À ce plat rapide à préparer, on peut ajouter toutes sortes d'autres légumes, carottes râpées, choux, pommes de terre bouillies, ainsi que du cottage cheese.
J'espère que toutes ces recettes...
Ça donne envie,
voilà,
quand même.
Voilà, vous donneront envie... Voilà, d'essayer ces recettes.
On va essayer de mieux cuisiner que la belle-mère et la belle-fille dans le conte dans l'histoire précédente.
Voilà. Donc, Bulbul Sharma a écrit aussi une dizaine de romans, des livres pour enfants, et donc elle organise aussi des ateliers d'art et de contes pour les enfants handicapés depuis quand même une quinzaine d'années.
Les enfants à besoins particuliers. Il y a une belle phrase de Bulbul, elle dit « Art is the best way to make a child feel confident ». L'art, c'est le meilleur moyen de donner confiance à un enfant.
C'est
plutôt...
Donc, en fait, elle partage son temps entre Londres, New Delhi et aussi son village dans les contreforts de l'Himalaya. Donc, je n'ai pas donné le nom du village parce que je pense que je ne vais pas réussir à le prononcer. Donc, je vous fais grâce de ma prononciation de l'indien.
Alors, tu sais ce que voudrait dire Bulbul ?
Ah non, dis-moi.
Le rossignol.
Ah, rossignol. Intéressant. Donc, ce que je vous propose, là, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, je vais vous repasser la musique de danse pour de mariage. Voilà.
Mariage.
Moi, je trouve ça assez sympa. Ah, et puis voilà, c'est dans les Bollywood, on trouve ce type de musique. Voilà.
Jhooti mo maya Satcha man ka Wo ko na jaha Prem ratan paya Thank you.
Donc voilà.
un petit tour à Bollywood.
Voilà, c'est ça. Donc ben, j'espère que ça vous aura donné envie de lire cet auteur qui, enfin moi je l'ai trouvé très sympathique à lire. Et il y a plein d'autres nouvelles qui étaient vraiment bien, mais qui étaient plus longues. Enfin voilà, qui étaient oui. sur faire des choix.
Bah oui. Enfin, quand... mais c'est toujours plein d'humour. Et puis mine de rien, elle parle de l'évolution de la condition des femmes en Inde.
Bah oui.
Parce
oui,
qu'elle est née en 52, donc elle fait la liaison entre la tradition et le modernisme finalement.
Bah oui, qu'est-ce qui se passe.
C'est pas mal avec beaucoup d'humour. Elle a dit à partir des goûts, on peut retrouver le cœur. Pas mal aussi avec ces histoires de femmes là, souvent.
Bah oui, c'est une belle phrase pour conclure cette émission. Donc bah merci Philippe de participer.
Avec plaisir.
Activement toujours aux émissions. Et puis eh bien chers auditeurs, comme on dit sur France Inter.
C'est ça.
Eh bien dans un mois alors voilà.
À bientôt si vous voulez bien.
À bientôt sur l'antenne de Principe Actif.
Une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.